Aujourd'hui, c'est special.
Special.
Interview.
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 Interview sérieuse.
Sérieuse et special.
Interview qui fait mal avec des femmes stylées.
Ouais.
1, 2, 3. Chers auditeurs et chères auditrices, nous voilà pour une nouvelle interview. Je suis Majdou et nous sommes à Luc avec Alice Ifergan-Ray. Salut Alice.
Salut Majdou.
Tu es une conteuse et tu fais plein d'autres prestations artistiques. Mais voilà, nous toutes les deux, on s'est un peu connues sur tes projets de contes dégenrés. On appelle ça. C'est vrai, c'est ça. Est-ce que tu veux bien te présenter à Erdiwa pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es déjà un peu connue.
Bonjour, chère auditrice. Mmh. Alors moi, c'est Alice, j'ai 30 ans et je suis une artiste fée. C'est-à-dire que j'invente des expériences participatives et immersives. J'écris des poèmes et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, je raconte des histoires. Donc j'ai un univers très enchanteur où on va croiser à la fois les codes du sacré, très protocolaire, et les codes de la pop culture, bling bling, strass et paillettes. Donc voilà, je crée des rituels poétiques où on oscille entre quelque chose de très introspectif, très précieux, très doux, mais aussi quelque chose de très kitsch qui amène de la légèreté et du jeu. Et mes rituels poétiques, ils prennent vraiment appui sur les mots, sur le langage, la poésie et parfois les contes de fées. Et pour revenir à ma pratique de conteuse, depuis plus d'un an, je raconte des contes de fées dégenrés. Les contes de fées dégenrés, dérangés.
Dérangés. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les contes dégenrés ?
Bien sûr, déjà je vais te raconter comment c'est né parce que c'est assez drôle. C'était par une fraîche nuit d'été. J'étais guide touristique dans un tout petit village avec deux autres nanas. On n'avait pas internet, pas de télé. Et du coup, tous les soirs, on écumait tous les jeux de société qu'on trouvait dans le chalet où on était hébergé. Et puis un soir, on n'avait plus rien à faire et je reviens à la maison en disant « Les filles, dans la boîte à livres, j'ai trouvé un livre de contes, des contes classiques. » On se met à se les lire chacune notre tour pour faire un peu une soirée lecture improvisée. Et à un moment donné, il y a Amandine qui commence son histoire. Donc, il était une fois un roi qui voulait marier sa fille. Et là, elle s'exclame « Ah non, ça suffit, il y en a marre de ces femmes qui se font promettre comme des objets. Là, allez, on inverse. » Et elle en recommence. « Il était une fois une reine qui voulait marier son fils. » Et elle nous a lu toute l'histoire comme ça, en inversant les genres. Parfois, elle se gourait, elle disait « le table » au lieu de « la table », tellement elle l'inversait tout. Et on a trouvé ça génial. Et je me suis dit, waouh, c'est un procédé tout simple.
Elle a vite né un truc.
Ouais, ouais, c'est un procédé tout simple et c'est hyper puissant. Voilà, donc les contes de fées dégenrés, dérangés, c'est juste les contes classiques de notre enfance, à nous, Européens. Donc Grimm, Andersen, Perrault, où je ne change pas une virgule du texte. Je ne fais que inverser les rôles de genre.
Donc les rôles de genre binaires quand même, masculin, féminin.
Tout à fait, ouais.
Et à qui ça s'adresse, ces contes ?
Ça s'adresse à tout le monde, hein, tout âge, tout genre, toute planète. Par contre, il n'y aura pas le même écho en fonction de l'âge. Donc, chez les plus grands, vu qu'on a grandi avec ces contes, ça va d'abord nous faire rire dans un premier temps. Et puis dans un second temps, il y a beaucoup de chances que en fait, ça nous mette en colère. Parce que le fait d'inverser le genre, ça permet de se rendre compte des rôles bien établis qui sont assignés au personnage féminin d'une part et au personnage masculin d'autre part. Pour la princesse, on notera l'attente, la fragilité, le fait d'être belle. Et leur seul but souvent dans l'histoire, c'est d'épouser un prince. Pour les princes, ce sera la bravoure, le voyage. Il est souvent sur son cheval, il se déplace, donc il y a une idée d'action. Par contre, le prince, il a encore moins de personnalité et de rôle dans l'histoire. Souvent, il débarque un peu de n'importe où. On ne sait pas ce qu'il aime. On ne sait pas qui il est. Et les princes, ils sont là que pour sauver la princesse et du coup, la faire accéder à son rêve, épouser un prince. Mais quand même, le prince, vu qu'on ne sait pas grand-chose de sa vie d'avant, on peut imaginer qu'il a voyagé, qu'il a vécu des aventures, qu'il a découvert le monde extérieur, alors que la princesse, elle, elle reste presque systématiquement dans l'espace du château, dans l'espace de la maison. Du coup, quand je raconte aux enfants, par contre, il n'y a pas du tout ce vent d'indignation qui arrive comme c'est le cas pour les adultes. Eux, ils vont prendre l'histoire comme elle vient, ils vont vivre l'aventure de façon naturelle. Et c'est ici que ça devient important et même primordial en fait, dans sa construction en tant qu'individu, parce que je ne sais pas si on se rend compte à quel point les contes, les histoires, les fictions qu'on absorbe quand on est enfant sont déterminantes dans notre construction du monde. Ils vont façonner notre façon de percevoir les autres, percevoir le monde, se percevoir soi-même dans ce monde. Et donc, pour moi, il est essentiel d'être hyper vigilant quant aux fictions qu'on partage avec les enfants, quoi. Alors, en ça, les contes de fées dérangés, dégenrés, en fait, ils ne sont pas à prendre en modèle unique, mais à voir comme un contre-pied qui va un peu rééquilibrer la balance face au sexisme des contes classiques, puisque en fait ils font qu'inverser les rôles et donc ils proposent aux femmes l'action, la bravoure et la responsabilité de sauver le prince, et aux hommes la passivité, l'attente et la beauté pour principale qualité. Donc en fait on se retrouve de nouveau dans un schéma complètement déséquilibré. Ils sont utiles aujourd'hui parce qu'ils viennent en opposition aux contes classiques, mais j'ose espérer que dans quelques années ils seront désuets.
Voilà, donc en fait pour les enfants il y a un réel enjeu d'identification
complètement.
Qui se rapporte à tout le côté imaginaire qui est hyper actif quand on est enfant et qui nous fait un peu ratterrir à la réalité parce que voilà, on se projette dans ces imaginaires communs en plus qu'on partage.
Exactement.
Qu'on transmet en tant que parent, on transmet ça. Donc en fait, c'est vraiment un côté hyper influent pour l'enfant.
Ouais. Les contes, c'est la base de notre imaginaire collectif.
Et voilà, donc du coup, c'est inversé, les conditionnements, les comportements genrés, avec toutes ces injonctions qui sont bien, bien définies, si t'es une fille, si t'es un garçon, les attentes que tu peux avoir, les traits de caractère que tu mets en place suivant des situations, etc. Alors, ce qui m'amène à ma troisième question, comment est-ce que tu définis, toi, le genre, Alice ?
Waouh, c'est pas facile, cette question.
Big deal. Je te laisse répondre.
Ok, du coup, je vais peut-être faire une réponse de « en ce moment, c'est quoi ?» Et peut-être que si tu m'avais posé la question dans deux semaines, je n'aurais pas répondu la même chose. Mais du coup, je crois que le genre, c'est les rôles, les codes, les comportements qu'on va adopter dans cette société en fonction des groupes auxquels on s'identifie, en fonction de peut-être ce qui nous fait du bien. Mais ça, c'est, en fonction de ce qui nous fait du bien, ça, je crois que c'est dans le cas où on ose s'écouter, où on a la chance de choisir. Mais la plupart du temps, on adopte ces rôles et ces codes inconsciemment, à notre insu, puisque le système nous invite à aimer telle ou telle chose en fonction de ce qu'on a entre les jambes. Et je me souviens que quand on cherche dans le Larousse un synonyme du mot genre, il propose allure. Et j'aime bien ce synonyme parce qu'il donne vraiment à voir toutes les nuances que les humains peuvent incarner dans leur expression de genre. Tu vois, dans le mot allure, tu as un peu l'idée de dégaine, tu visualises le vêtement, tu as une idée de déplacement aussi. Et c'est ça, le genre, c'est pas forcément fixe, ça peut évoluer, ça peut fluctuer, il peut danser avec la personne qui le porte, tu vois. Et puis, on vit beaucoup aussi son genre à travers le langage, à travers les pronoms qu'on emploie pour désigner les gens ou pour se désigner soi-même, et avec la façon d'accorder les adjectifs. Et donc, c'est là que la conteuse intervient de nouveau. Puisque la conteuse construit le monde avec des mots, et du coup, on peut jouer avec ces mots, et donc jouer avec la construction du monde, ou la construction des mondes. Voilà.
Alors, moi, peut-être que je pourrais rajouter quelque chose. C'est du coup la performance de genre dans le sens où quand on est assigné fille ou quand on est assigné garçon, ce qu'on va avoir tendance à faire avec toute notre socialisation et socialisation primaire, socialisation secondaire, etc., on va performer dans ce qu'on attend dans ce genre-là. Et du coup, toi, tes contes qui déconstruisent en fait ça, qui remettent les choses à zéro, qui remettent les choses à zéro, voilà, en inversant le truc et en faisant de ce genre quelque chose qui est en fait plus obligatoire, parce qu'on inverse, donc c'est plus une injonction. Toi, c'était quoi ton but, c'est quoi la vocation de ça, de cet art en fait, de ces contes?
Et ben, c'était de faire en sorte que ces princesses qui parcourent le monde à cheval et que ces princes qui rêvassent à leur fenêtre existent. C'est juste leur donner vie, en fait. On a l'impression que c'est presque rien de procéder à cet inversement. Mais en fait, il faut quand même se dire que bah, y a tout un travail où on va collecter les contes. Parce que là, bien sûr, on les a en tête. On se dit la belle en bois dormant, petit chaperon rouge, boucle d'or. OK, il faut aller les chercher. Pour les raconter du début à la fin, sans se tromper, bah, y a tout un travail de réécriture. Et ensuite, il y a la diffusion qui les rend accessibles, qui fait que les grands, les petits, les moyens, les minuscules, ont juste à cliquer sur Internet pour y avoir accès, fermer les yeux et partir en voyage. Moi, ces contes, je les partage déjà depuis le confinement, puisque pendant le confinement, je racontais par téléphone. Je racontais individuellement, sur commande. J'appelais les gens et du coup, je leur racontais une histoire dans le creux de l'oreille. Et puis, je ne devrais peut-être pas le dire, mais on est en train d'en enregistrer plein avec Radio Diwa pour qu'ils soient diffusés chaque semaine à l'antenne à la rentrée prochaine. Et ensuite, je les raconte en festival, en randonnée, avec Buenaventure, bibliothèque, musée, centre culturel, planète encore inconnue. Voilà.
Là, du coup, j'en profite pour dire que on va aller. Enfin, moi, je vais aller à ta séance avec la Buenaventure. On va aller se randonner les pattes et tu vas compter du coup devant un public. Tu peux un peu raconter le contexte de cet événement, parce que du coup, après, on va passer les extraits des réactions qu'il y a eu à chaud après la séance.
Buenaventure organise des randonnées à thème. Donc, ça peut être une randonnée en musique, une randonnée poétique, une randonnée avec de la poterie. Et cette fois-ci, c'est donc une randonnée contée. Et ce sont des randonnées qui sont accessibles aussi aux personnes qui n'arrivent pas trop à se déplacer. Pas forcément handicapées, hein, juste des gens qui ne peuvent pas randonner pendant 2 heures. Et puisqu'on les accompagne en joëlettes, donc des joëlettes, c'est des espèces de tricycles où on s'allonge et où on est poussé. Et voilà, donc c'est des randonnées très inclusives.
Alors, est-ce que tu as un passage à nous lire?
Ouais, bien sûr.
Allez, balance.
Je peux te raconter, je vais pas te le lire, je vais juste te le raconter, l'histoire de ce roi qui cousait à sa fenêtre par une belle journée d'hiver. Il avait sous les yeux un magnifique paysage blanc étincelant, encadré par le cadre de bois d'ébène de sa fenêtre, et distrait par tant de beauté, il se pique le doigt avec son aiguille, une goutte de sang tombe sur le rebord de sa fenêtre. Et il s'exclame « Waouh ! Qu'est-ce que j'aimerais avoir un enfant, noir comme l'ébène, blanc comme la neige ?» Vermeil comme le sang. Et en effet, quelque temps plus tard, lui naît cet enfant, à la peau noire comme l'ébène, aux lèvres vermeilles comme le sang et au sourire blanc comme la neige. Et pour cette raison, on l'appela Blanc-Neige.
Alors, t'as inversé les couleurs de peau aussi, non ?
Bah ouais, On ne fait pas les choses à moitié.
On y va carrément, en fait.
Ouais, il y a un gros problème avec les critères de beauté aussi dans les comptes. Je veux dire, ce truc de blond aux yeux bleus, ça ne peut plus durer. Alors, il s'explique pour une question de rareté physionomique. En fait, si on considérait que les critères de beauté, c'était d'être blond, vénitien d'ailleurs, blond vénitien aux yeux bleus, aux yeux clairs, c'est parce que c'était très rare à trouver. Donc, c'est en ça qu'on trouve ça beau. Mais après, on peut le voir, nous aussi, les humains, je ne sais pas, chez les animaux, on aime bien les animaux qui ont des robes, des poils, des couleurs très rares à trouver. Tu vois, les chevaux albinos, par exemple, ou les chevaux tachetés. Je prends l'exemple des chevaux, parce que je fréquente beaucoup de chevaux. Mais... Donc, voilà, il y a ce truc de rareté. Qui a complètement conditionné les critères de beauté et qui, je veux dire, Maj Douline, je te vois, toi t'es brune aux yeux noirs, j'imagine que t'en as beaucoup souffert aussi, petite, de ce truc où, putain, on n'était pas blonde, quoi.
Ah ouais, non, moi c'était surtout les yeux clairs, en fait. Voilà. J'ai toujours rêvé d'avoir les yeux clairs.
Et donc, là, avec Blanc Neige, expliquer que ce prince est beau parce qu'il a une peau d'ébène et non pas parce qu'il a la peau blanche. Bah ça vient un peu aussi chambouler
bah oui, les codes,
ces petits codes bien rangés, ouais.
Mais après les critères de beauté changent suivant les époques aussi.
Oui, ils changent suivant les époques.
Maintenant on dirait qu'une bombe un peu médiatisée, enfin je veux dire, dans les critères, ça serait aussi une mate avec les yeux verts.
Complètement, ouais, on est beaucoup dans le métissage aujourd'hui. Donc encore on en revient à ce phénomène de rareté.
Ah oui.
Tu vois. Et puis, quand je décris... Alors, il y a une différence quand je lis les contes, je ne change rien au vocabulaire. Du coup, c'est aberrant. On se rend compte des injustices et du formatage. Par contre, quand je les raconte, je supprime tout ce qui est sexiste envers les hommes, les femmes ou tout autre genre, les critères de beauté. Et aussi, du coup, quand je décris ma princesse, je dis qu'elle est belle parce qu'elle a les yeux pétillants, un sourire contagieux, une chevelure douce. Et tous les spectres physiques des humains peuvent avoir une chevelure douce, un regard pétillant et un sourire contagieux. Voilà, donc on balaye un peu tout ça et
ça fait vraiment concurrence en fait à tout le mainstream qu'on nous dit, les contes où voilà il y a le chevalier qui vient embrasser la princesse, qui attend de se marier pour être libéré de sa tour et tout. Et en fait ouais, c'est ça vient complètement inverser les choses. Et Et là, c'est la princesse qui prend les devants. Et en fait, ça fait exister hein, une autre chose, quoi.
Et il n'y a pas
c'est
de...
C'est une ouverture qui est...
Ouais, il n'y a aucun mal à attendre à sa fenêtre, en regardant le paysage, en rêvassant, en étant passif. Il n'y a pas de mal du moment que c'est un choix. C'est juste ça, en fait. Il faut juste être sûr que c'est un choix et qu'on n'est pas dans la passivité par déterminisme.
Il y a cette chose aussi qui est que les hommes qui auraient des comportements féminins, ou en tout cas des... oui, on parle de comportements, mais voilà, des traits de caractère...
Allure.
Voilà, une allure, non, mais qui les ferait par exemple attendre l'amour, qui les ferait discuter de leurs histoires intimes, etc. C'est directement vu comme péjoratif parce que féminin. Tandis que l'inverse, péjoratif dans le sens où, ah, en fait, c'est pas un vrai homme. Il est directement considéré comme mauviette, ou alors peut-être pédé, ou j'en sais rien.
Bah parce que la société valorise plus
exactement,
le rôle masculin.
Tandis qu'une femme qui serait courageuse, qui prendrait sa vie en main, qui viendrait délivrer un homme, et ben ça devient tout de suite une héroïne.
Ouais.
Et voilà, et c'est fantasmé aussi l'héroïne.
Et c'est pour ça qu'il faut aussi laisser de la place à ces princes
qui sont sensibles.
Qui sont sensibles et graciles et peureux,
voilà.
Et qui attendent leur sauveuse. On a le droit.
On a le droit.
Et la vulnérabilité devrait être vue comme une qualité.
À sa place dans tous les genres.
Tout à fait.
Il ne devrait pas avoir de cases. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, si tout se passe bien.
Pour Erdiwa.
Et que la diffusion se déroule à merveille comme on l'a prévu. Ces contes rentrent totalement dans cette journée. C'est quoi, toi, pour toi, le 8 mars ?
C'est une journée de solidarité et une journée de dénonciation. Solidarité à l'égard des femmes, 6 ou non 6 d'ailleurs, qui subissent des violences parce que femmes. Et du coup, on est toutes là pour pointer du doigt les violences évidentes, mais aussi, surtout les violences beaucoup plus sournoises, plus subtiles, moins faciles à déceler et à appeler violence. Pour donner l'envie, donner les outils, la force à ces femmes qui les subissent. Et je dis ces femmes, mais même nous, ici présentes, on s'est très certainement déjà senties concernées. Du coup, pour se donner toute la force d'en sortir et d'en guérir.
Est-ce que tu as une volonté de dire un mot magique et rajouter quelque chose à cette entrevue, sachant que du coup, on va aller se balader avec la Bonne Aventure et récolter les avis d'après compte des gens qui t'auront entendu pendant cette balade. Je te laisse la parole.
Bah, si tu veux, je peux te lire un texte que j'avais écrit l'année dernière, le 8 mars dernier, pour cette journée.
Avec grand plaisir.
À nos aînés, à nos mères, à nos grandes sœurs, à nos tantes, à nos marraines, nos bonnes fées, nos guides et nos alliés. À celles qui nous ont transmis leur posture, leur conscience et leur combat. Ces combats que nous avons transformés en confort, en coussin douillet où l'on aime se blottir, que l'on partage avec nos amis, avec elles, eux, elles, dans lesquels on se vautre délicieusement. À celles qui ont fait le taf que nous n'aurons plus à faire, qui ont pris les baffes qui ne nous sont plus destinées, essuyé les gaffes de nos grands-mères, reprisé délicatement les cœurs troués, tressé des couronnes de patience, brandi des poings fermés, jeté des poignées de fleurs carnivores pour qu'aujourd'hui, nous puissions chanter, danser, roucouler, main dans la main, avec toujours moins de hargne, toujours plus de confiance, moins d'effort, plus d'évidence. Ensemble, entre nous, mais aussi avec eux. À ma mère, qui m'a appris l'exigence d'être au féminin. À ma grand-mère, qui, sans en parler, m'a démontré le courage d'être féministe au siècle d'avant. À mon père, qui m'a dit que l'homme est l'égal de la femme et non l'inverse. À mon père, qui m'a dit que l'homme est l'égal de la femme et non l'inverse. Et à vous, ici présentes, à vous qui aujourd'hui, par les discours que vous partagez, me rappelez tout le chemin qu'il reste à faire, mais à faire ensemble. Soyez-en sûres, les filles, ensemble. Toutes ensemble, et surtout tous ensemble.
Merci Alice.
On peut peut-être se lancer un tir Yana Kamura pour terminer en beauté.
Laquelle ?
J'aimerais bien Bobo.
Pourquoi ?
C'est une chanson où il y a la Aya entrepreneuse qui dit « Moi, je suis là pour faire mes thunes, pas pour que tu me fasses de Bobo. »
Musique.
Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous? Non, mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air avec toi, je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non, y'a pas de repère.
Chérie coco, fais-moi je veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Cataléa, mea t'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Cataléa, mea pour qui tu te prends, joie en toi, tout débrouille. Le bouc est trop dans l'air, il est top, top. Est-ce que tu pourrais m'étonner? Je sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. T'oublies les codes, codes, de quand t'es capable. Yeah, yeah, yeah. J'vois pas le vaisseau mère, y'a jamais rien sans rien. Y'a que des mots, j'veux pas me laisser faire. Où est mon vaisseau mère? J'aimerais toucher le ciel. J'suis yombe, 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 chérie, tu sais. Chérie coco, fais-moi j'veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Cataléa, mea t'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Cataléa, mea pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.
Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse. Donc c'est mort, je m'en vais. Pas de retour, je m'en vais. Non mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air, avec toi je m'en mêle. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non y'a pas de remède.
Chérie coco, fais-moi je veux le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Fais-moi pas de bobo. Appelle-moi Cataléa, mea t'aimes tout chez moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Cataléa, mea pour qui tu te prends, joie en toi.